Bienvenue sous le signe du bleu comme une orange et du noir comme un soulage. Comme vous le voyez, le hasard vous a conduit sur la longueur d'onde de France Culture. Françoise Cordet, Pierre Monteil, Georges Paczynski et moi-même, nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans notre modeste studio. Ce soir, l'histoire du piano par des voix détournées, dixième et hélas, dernier chapitre. Si quelqu'un a enrichi la panoplie du scat moderne post-parkérien, ce fut la chanteuse Lily Mae Jones, disparue en 1998 à l'âge de 68 ans, plus connue sous son nom de guerre de Betty Carter et un temps surnommée Betty Boop, d'après le personnage de cartoon Betty Boop, bien sûr. Miss Carter, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas fait l'unanimité. Elle a eu ses fanatiques, mais une partie d'entre eux étaient de fanatiques détracteurs. Certains, cependant, n'apprécièrent pas de manière égale tout ce qu'elle leur donnait à entendre, car les projets esthétiques sont une chose, leur mise en œuvre en est une autre, et l'aboutissement de cette opération en représente une troisième. Même si cette dernière n'est plus, comme au XVIIe siècle, la seule à prendre en compte, on peut difficilement admettre qu'un artiste ayant, en tout sens du terme, commerce avec un public ne soit pas soumise à une certaine obligation de résultat. Serait-elle louable, voire éventuellement inspirée par le génie, on ne saurait se contenter d'intention. Chez Betty Carter, les intentions sont pures et leur mise en œuvre d'une farouche intégrité. Les résultats obtenus de surcroît en constituent le fidèle reflet. Il apparaît néanmoins qu'ils témoignent d'une démarche d'abord intellectuelle. En conséquence, chez l'auditeur, l'émotion ne se trouve pas toujours au rendez-vous. On peut très bien approuver la démarche de Betty Carter sans vibrer à son chant, voire en éprouvant une certaine gêne, sinon un certain déplaisir à l'entendre. Pour autant, on connaît des amateurs dont les exigences ont toujours été satisfaites par toutes les plages de tous les disques et toutes les chansons de tous les concerts de cette femme. Quelqu'un a même souligné quelque part que rarement un artiste avait eu autant d'admirateurs en proposant une œuvre à ce point marginale. Ce qu'elle apporta de neuf au scat est ce qui fait l'originalité absolue, programmée, travaillée, revendiquée de sa manière. Un critique américain a su le définir en peu de mots. Elle chantait, a-t-il écrit, sans le moindre vibrato dans l'espace harmonique situé entre les accords, au-dessus et au-dessous des notes d'un morceau. Et en règle générale, elle chantait là uniquement. Le mot-clé est bien sûr le dernier, uniquement. Ce qui fait que Betty Carter apparaît irremplaçable et ce qui lui a donné sa réputation d'irréductibilité, c'est la systématisation d'audace que d'autres avaient déjà pu montrer. Admiratrice résolue de Billy comme d'Ella Fitzgerald, Betty était résolue à ne pas suivre leurs traces. Toutes deux, cependant, lui avaient montré le chemin, Ella le chemin du scat, Billy celui d'une certaine indépendance harmonique. Betty Boop, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a elle-même déclaré un jour qu'elle était déterminée à aller, si possible, encore plus loin que cette prestigieuse aînée en partant du même parti pris. Je chante quelques phrases du morceau que j'interprète, le reste du temps j'en fais de la charpie. Ce sont les instrumentistes et non pas des chanteurs qui m'ont influencé. Pour ce qui est du concept, il est fort possible que je sois sur la même longueur d'onde que Billy, mais ma musique est plus complexe que la sienne. Elle respecte plutôt la mélodie quand je la transforme du tout au tout. Je dois procéder ainsi. Pour survivre, il m'a fallu présenter quelque chose qui se démarquait de tout le reste. Exception faite des Beboppers, je ne vois pas de qui je tiendrai ma manière. En présence du batteur Art Taylor, qui l'interviewait, elle se livra à propos de Lady Day, une fois de plus, à la mise au point suivante. Billy était une styliste, avait un son particulier qui n'appartenait vraiment qu'à elle. Elle n'avait pas pris de leçons de chant, elle ne se laissait pas intimider et se montrait désinhibée. C'est ce que j'appelle du jazz, au sens où l'on est en face d'un art à l'état brut. Ce qu'elle avait à offrir sortait d'elle naturellement. Vous sentez que la question de savoir si elle est ou non une chanteuse de jazz ne se pose même pas. Il est clair que toute polémique rengainée, la question ne se pose pas non plus au sujet de Betty Carter. Quite The Trolley Song en 1979 à San Francisco, l'inimitable, et tout le sel de la chose résidait là, l'inimitable Betty Carter, accompagnée par John Hicks au piano, Curtis Lundy à la contrebasse et Kenny Washington à la batterie.
Mon cher Alain, vous me voyez un peu nostalgique aujourd'hui. Nostalgique parce que nous arrivons, comme vous le souligniez tout à l'heure, à la dernière émission. Et bien, je vous avoue franchement... J'ai un peu de mal à accepter ça, parce que j'en aurais bien fait encore au moins 10, avec le plaisir que j'ai toujours rêvé de faire du piano. Je me demande pourquoi j'ai pas été pianiste, et finalement, vous voyez, j'ai toujours rêvé de ça, les sons, le grave, l'aigu, promener les mains sur les touches du clavier, j'adorais ça tout le temps, j'ai toujours cherché des sons, chercher des accords, des choses comme ça. J'ai toujours adoré ça. Enfin, la vie a tourné autrement. Alors, écoutez, Alain, nous avions commencé par Bill Evans, souvenez-vous. Puis après, nous avions parlé de Kenny Werner et de la maîtrise sans effort. Ce livre magnifique, passionnant. Ensuite, l'art du toucher, avec Pierre Annunzi et le livre de Bertrand Hott, Liszt et la pédagogie du piano, encore un autre livre passionnant. Et puis la résonance, l'art de la résonance, avec ce pianiste magnifique Fred Hirsch. Puis l'art du silence, avec Monk, John Lewis, Ahmad Jamal, Paul Blais, souvenez-vous. L'art de la virtuosité, on avait évoqué Tatum, Oscar Peterson, Bud Powell, Vladimir Horowitz, comme de bien entendu. Puis l'art de la lenteur, souvenez-vous Alain, il y avait Mark Copland, Bill Carothers, et puis ses batteurs qui jouaient magnifiquement bien, Jeff Hamilton, Peter Erskine, qui étaient aussi dans cet art de la lenteur. L'art du son lui-même, et là il y avait Kenny Barron, et puis... Oscar Peterson à nouveau. Émile Gilels nous a accompagnés souvent au cours de ce parcours. Et puis, nous avions parlé de l'art de la mélodie, l'art de la couleur. Et je vous avais posé un certain nombre de questions, souvenez-vous. Et vous aviez évidemment trouvé la réponse. C'était sur Errol Garner. Et nous avions pris un bain de, j'allais dire, de fraîcheur absolue. Et bien maintenant, comme nous en arrivons à la fin, il faut bien revenir à nos premières sources, si vous voulez bien. C'est d'ailleurs revenir à Bill Evans. Comment peut-on partir de Bill Evans et ne pas revenir à Bill Evans ?
Petite donc, parenthèse pour, voyez, nos, pour nos amis pianistes. Oui. Précisément ce matin, par le plus grand des hasards, oui, je regardais une bande vidéo consacrée à un petit concert donné par Garner. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que, comme Monk d'ailleurs, cet homme jouait les doigts complètement à plat. Oui. Ce qui est d'autant plus frappant qu'il avait des doigts immenses. On avait l'impression que, à force de les avoir allongés vers ce piano qu'il fascinait quand il était tout petit, hein, il, oui, avait attrapé des doigts deux fois plus longs que la normale. Mais c'est très frappant de l'entendre jouer comme ça des sons cristallins et avec ses doigts très raides.
Très raides. Et en même temps, il avait quasiment à des moments les doigts perpendiculaires au clavier, carrément, avec une, toute une gestuelle qui lui est vraiment totalement personnelle, bien entendu. Alors, je vous propose un enregistrement, Alain. Je ne pouvais pas ne pas le passer. J'aurais pu faire au Tom Leaves, évidemment, cet enregistrement qui a fait basculer l'histoire du jazz. Mais je vous propose quelque chose de plus intimiste. Nous sommes le 25 juin 1961 et vous me voyez déjà venir.
Un extrait d'un des plus fameux enregistrements, je crois qu'on peut dire cela, de l'histoire du jazz post-parkérien. Nous étions donc, Georges l'a dit tout à l'heure, en 1961, au Village Vanguard très précisément.
Le 25 juin.
Voilà.
Et nous étions, c'était le morceau qui s'appelait Porgy et Scott LaFaro, Paul Motian. Et que dire
d'abord Porgy, ça aurait pu y porter un sous-titre qui aurait été « Comment donner de la confiture au cochon ?»
Alors, voilà, votre image est terrifiante quand même, il faut quand même bien dire. Il y a un chef-d'œuvre de l'histoire de la musique qui est gravé, parce que ce trio est un des miracles de la musique du XXe siècle, le trio, il faut quand même le dire. Et là, vous avez des gens, il y a une femme qui rit, enfin, il y a une chose absolument ahurissante, c'est une situation complètement invraisemblable, quoi. Les gens ne se rendent pas compte, ils entendent. Et vous avez la retenue des musiciens qui sont
cela
là.
Cela dit, ça a toujours été la situation dans les clubs américains.
Oui, c'est vrai. Mais il a une retenue extraordinaire. Une retenue et chacun s'écoute. C'est la balance entre les trois musiciens est sublime. Tout ce qu'on a pu dire. Évidemment. Alors, il se trouve que Bills, Evans, se crée son univers. Comme il le développe toute sa vie. Comme il y a l'univers de Duke, l'univers de Miles, de Monk, de John Lewis, d'Ahmad Jamal. Et l'univers de Bills, c'est des rythmes, des accords, c'est trouver des partenaires d'abord aussi, c'est se développer cet univers avec des partenaires qui conviennent. Vous voyez, j'ai toujours été admiratif de ça, des gens qui ont la chance de trouver les partenaires qui vous conviennent, quoi. Parce qu'on ne peut rien, on peut avancer et en même temps, si les autres ne sont pas là, on ne peut pas avancer. Et là, il y a un miracle de l'histoire de la musique avec Motian et Scott LaFaro. Et donc Bill, en même temps, va s'envoler progressivement parce qu'il va changer de partenaire. Et ces partenaires vont nous emmener vers un autre trio. Et un trio que je vous avoue franchement, je trouve un des trios sublimes de Bill, peut-être mon préféré. Mais enfin, c'est difficile à dire. Écoutez cette merveille. On est en janvier 65 et vous me voyez déjà venir. Mais oui. Thank you.
J'ignore si l'histoire retiendra le nom d'Earl Zindars, mais elle devrait parce que c'est un homme qui a composé quelques superbes mélodies, dont Bill Evans, du reste, s'est fait l'ambassadeur, et notamment celle-là, moi c'est peut-être celle qui me plaît le plus, qui s'appelle Elsa.
Elsa, Alain, nous, Chuck Israel, Larry Bunker, janvier 65, peut-être un des trios les plus sous-estimés aussi de Bill Evans. Le dernier, Mark Johnson, Joey LaBarbera, superbe. Aussi, Elliot Zygmunt, bon, tous ces batteurs, tous ces contrebassistes aussi, mais ce trio-là a quelque chose de plus, peut-être encore un autre miracle de la musique. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que Bill, il expérimente, la vie avance, le temps passe, il change de partenaire, il expérimente à nouveau, Et parallèlement à ça, il y a les accidents de la vie. Son père alcoolique, son frère qui se suicide, Hélène se jette sous le métro. Il y a la vie en même temps, et en même temps, il y a cette espèce d'inexorable traversée de la vie. Et j'ai retrouvé dans ma documentation cette pensée de Jarrett. Parce que Jarrett dit « Je crois qu'un véritable artiste est un artiste qui a conscience de l'impossibilité de sa tâche et qui continue de l'exécuter. Quelqu'un qui escalade ses montagnes personnelles, il faut être sans pitié à l'égard de soi-même. » Eh bien, je crois que, effectivement, si je vous ai parlé de Jarrett, ce qui avait une raison aussi, c'est que ce que nous venons d'entendre en 61, en 65, eh bien, jamais ce que nous allons entendre maintenant, une minute seulement, vous me pardonnerez, mais il faudrait tout entendre, il faudrait passer plusieurs journées à tout entendre, ce qui se passe le 2 juillet 85. Écoutez, c'est magnifique. Alain, nous avons reconnu Jarrett Trio, n'est-ce pas, avec Peacock et Desjeunettes. Ce trio n'aurait pas existé s'il n'y avait pas ce que nous avons entendu précédemment. Et toute l'histoire, nous avançons. Mais là, je vous réserve encore autre chose, Alain. Parce que d'où vient tout ce que nous venons d'entendre? D'où ça vient? On cite souvent Debussy, Fauré. On en a parlé, Debussy, Fauré, César Franck ou Scriabine, Ravel. Mais il y a peut-être autre chose. Et je vous propose une véritable une petite pièce. Puis je vous dirai un petit mot, puis une autre petite pièce, puis un petit mot, et une autre petite pièce encore. Mais vraiment, on va brasser très très large. On va traverser le temps. Thank you. Faudrait tout écouter, Alain, faudrait tout écouter, ce soldo obsédant, tout le temps soldo. Ça s'appelle la caravane, rêve pendant la sieste. Vous le croiriez, ça. Et ça a été composé, Alain, je vous le dis tout de suite, bien sûr, entre 1913 et 1919. Charles Koechlin, pour piano, c'est 16 pièces, des heures, personne. 16 pièces pour piano, c'était la deuxième. C'est sublime, voilà un homme qui... On en parlait avec notre ami Georges Poudamara par téléphone. Je lui dis, je fais écouter cette émission. Il me dit, oh là là, Koechlin, c'est un catalyseur. Et on le joue, mais c'est une question de mode, on ne le joue plus. On joue un peu, mais on le voilà. Alors que c'est un homme qui a écrit des ouvrages d'enseignement. Il a fait des traités d'orchestration, il a écrit pour les cuivres, etc. Puis il y a un petit livre qui s'appelle « Mon meilleur élève, c'est moi-même ». Je pense que c'est quelque chose qu'ils auraient pu... Il était l'élève de Gabriel Fauré. Et puis après, il a eu cette phrase qui m'a beaucoup plu. Il a pu écrire ça. « Au soir de ma vie, je me rends compte que la réalisation de mes rêves d'artiste, pour incomplète qu'elle soit, m'a donné la satisfaction intime de n'avoir pas perdu le temps, mon temps sur la terre. » C'est-à-dire que voilà, un homme qui a pu s'épanouir, et la musique c'est aussi ça, c'est d'abord un épanouissement. Mais regardez, on est en 1913, c'est l'histoire du piano en diagonale, Alain, je vous le rappelle, 1913. Mais, et c'était, je ne l'ai pas précisé, au piano Catherine Stott. Et maintenant, commençons quelques instants, juste une minute d'une autre pièce. Vous allez la reconnaître tout de suite. Vous avez évidemment reconnu, Alain, cette pièce que nous adorons tous les deux, une des pièces maîtresses de Bill Evans. Nous sommes le 15 décembre 58. Peace, peace. On a dit souvent que cette pièce était un testament, quasiment avant la lettre. Il y a cette, encore, vous allez me dire, soldo obsédant, comme dans la pièce précédente. Il y a une pédale incroyable. Je vous ai amené la partition. Regardez, il y a toujours une pédale sol, do, noir, blanche pointée, parfois un peu inégale, bien sûr, et la mélodie au-dessus. Et pendant 7 minutes, il va improviser sur cet ostinato de la première mesure.
C'est une pièce très courte, mais son héritage est très long. Cela dit, c'est un héritage qui, assez curieusement, comme il y a des musiques qui sautent les barres de mesure, à sauter les décennies. Parce que l'héritage immédiat de Bill Evans, pendant sa vie et immédiatement après sa mort, a été fondé sur d'autres enregistrements que celui-là. Et maintenant, on assiste à une floraison de pianistes dont on dirait qu'ils sont issus plus particulièrement de Peace, Peace.
Alors, je crois que les auditeurs vont croire que nous avons monté un numéro, Alain, et nous ne nous sommes pas concertés. Regardez ce que je vous propose maintenant. Thank you. Rendez compte, Alain, nous sommes le 24-25 octobre 2001. Nous venons de franchir un siècle de l'histoire du piano. Rendez compte. C'est incroyable. Et nous entendons ici, à nouveau, qu'est-ce que nous entendons ? Un sol obsédant. C'est incroyable.
Et on a le sentiment que ce genre de pianiste, donc Marc Copland,
bien sûr.
Il y en a d'autres, en n'allant pas une fois de plus sortir au micro toute la litanie
de
ces personnages tout à fait remarquables.
Ouais.
On a l'impression, en tout cas avec eux, une unité de la musique s'est faite qui n'était guère prévisible. Unité de la musique occidentale, puisque le jazz est aussi de la musique occidentale.
Ouais.
Ces musiques, à travers notamment les amateurs et les critiques, se sont livrées la guerre, parfois durant des décennies.
Ouais.
Et puis, maintenant, alors non seulement on assiste à cette harmonisation très intime, mais je dirais même que par des gens comme Marc Copland, on a l'impression qu'on va redécouvrir dans des pièces comme celle de Koechlin un swing qui n'y était pas.
Alors...
C'est-à-dire que rétrospectivement, on s'aperçoit qu'il y avait là l'amorce de quelque chose qui est la conception actuelle du swing.
Alors, mais c'est totalement... Je ne pouvais pas imaginer que nous en arriverions tous les deux à cet endroit de notre conversation. C'est vrai que c'est invraisemblable, cette espèce de redécouverte d'autres choses qui prennent un relief. Qui aurait pu imaginer, parce qu'évidemment, on cite souvent Debussy, Ravel, autre, mais Koechlin, personnellement, et là, vous avez une chose... Quasiment, on aurait pu dire que les heures personnes, cette pièce pour piano, la caravane, il y en a d'autres, les titres sont succulents d'ailleurs, sont magnifiques, des pièces, toutes des petites pièces, des petites perles. C'est totalement la musique d'aujourd'hui. Quoi. On regarde ça, on a l'impression qu'il y a un écho qui nous vient de très loin et qui remonte à la surface. Il y a quelque chose qui nous revient. Alors vous voyez comme quoi, finalement, rien ne se perd. Même si les modes passent, si les gens changent, on a l'impression que c'est passé. Pas du tout. Il y a une actualité brûlante de certaines choses, de la vie, tout simplement, et de la musique, qui nous reviennent comme ça. Alors, vous savez, il y a quand même cette chose, moi, c'est la notion de continuité. C'est une des choses, j'insiste souvent là-dessus, parce que c'est peut-être la chose la plus difficile qui existe. Le travail de l'artiste, et Bill en est un exemple, c'est le travail solitaire, et en même temps s'entoure de partenaires, et ce travail solitaire qui avance, où finalement, est-ce qu'il mènera un peu à la fin de sa vie, pratiquement, il a bien le trio, mais il est quand même seul, quoi. Et donc, en même temps, il y a cette espèce de solitude incroyable, et en même temps, de création permanente, et d'avancée dans la création, et on va quand même dans le mur, quoi, parce qu'on sait qu'on va dans le mur. Alors, vous voyez, là, il y a cette espèce de marche parallèle, qui fait qu'on se demande à des moments, on se demande où ça va, pourquoi ça va,
mais vous savez,
jusqu'où ça va.
Contrairement à une image que beaucoup trop de gens ont de lui, il ne s'est pas enferré dans cet univers de brumes opalines dont nous venons d'avoir un exemple à travers Peace Peace.
Oui.
Et c'est un homme qui a toujours su conserver la tension entre cet aspect de son art et un aspect très différent et même antagoniste qui pourtant était complètement contemporain, c'est-à-dire celui des solos de piano que l'on entend chez le Bill Evans qui joue dans les disques en big band de George Russell.
Ah oui.
Par exemple.
En effet.
Où là, on a affaire à quelqu'un qui est au contraire à l'origine et à son époque à la pointe d'un certain free jazz en train de naître.
C'est vrai, c'est très juste. Alors, je souhaiterais vraiment que l'on écoute la pièce Peace Peace en entier parce qu'il y a là quelque chose qui est hors du temps. Thank you.
Encore un enregistrement historique en son long, le fameux Peace, plage de paix de Bill Evans, un des premiers solos non accompagnés que le maître ait enregistré au début de sa carrière phonographique. C'était dans le disque Everybody Digs Bill Evans qui a beaucoup contribué à le faire connaître. Alors une chose est certaine, on n'en doute plus lorsqu'on écoute ce morceau aujourd'hui. Sans cette œuvre, le Kind of Blue de Miles Davis était tout simplement impensable. En tout cas, les pièces lentes de ce disque.
Vous avez raison, je n'avais même pas fait évidemment le rapprochement. Je pense qu'il y aurait énormément de choses qui ne seraient pas possibles. On aurait pu évoquer aussi Chick Corea, le trio de Chick Corea avec Roy Haynes, Miroslav Vitus. On aurait pu voir tous les échos, toutes les tentatives qui sont là. C'est ça qui est extraordinaire. Et quand on voit maintenant où on en arrive, et vous avez, c'est un cheval de bataille chez vous, Alain, où vous dites finalement, c'est les pianistes qui vont nous ouvrir la voie peut-être pour le jazz à venir. L'histoire du piano ne peut pas l'oublier. C'est Mark Copland, John Taylor, la litanie que vous évoquiez tout à l'heure, Mark Copland, John Taylor, Bill Carothers, Kenny Werner, voilà. Et bien d'autres encore.
Marlene Crispell,
par exemple aussi, voilà. Et donc, finalement, ces musiciens doivent avoir une culture classique, ils doivent avoir une culture du jazz, ils doivent avoir une culture de la musique contemporaine. Et finalement, il faut avoir une culture très vaste pour pouvoir faire une note de musique juste. Alors, je vous propose quand même, parce qu'il y a quand même une pensée qui m'est assez chère, qui dit la chose suivante. Qui peut mettre la fin de sa vie en relation avec son commencement est le plus heureux des hommes. C'est-à-dire que finalement, un musicien qui commence à manipuler les sons, qu'il arrive à la fin de sa vie, il manipule les sons, il fait un grand cercle sur sa vie, il se retrouve d'une façon permanente. Et vous savez, ces retrouvailles avec soi-même permanentes, elles ne se font pas sans difficulté. Et on le sait tous très bien. Et je vous propose cette petite réflexion qui va conclure notre émission, Alain, sur l'histoire du piano en diagonale. Les vers ne sont pas, comme le croient les gens, des sentiments. Ceux-ci, on les éprouve assez tôt. Ce sont des expériences. Pour composer un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne le comprenait pas. C'était une joie faite pour un autre. À des maladies d'enfance qui commençaient singulièrement, partant de profondes et grandes transformations, à des jours passés dans le silence des chambres solitaires, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à la mer surtout, aux nuits de croisière où l'on se sent emporté dans le mugissement des flots à la poursuite des étoiles. Et tous ces souvenirs ne suffisent pas. Il faut avoir connu de nombreuses nuits d'amour, toutes différentes les unes des autres, avoir entendu les cris des femmes en couche et avoir vu dormir, exsangues, diaphanes, les accouchés dont le corps se referme. Il faut également être assis au chevet des mourants, avoir veillé les morts, la fenêtre ouverte, parmi les bruits insolites. Il ne suffit pas non plus d'avoir des souvenirs, il faut pouvoir les oublier. Quand ils sont nombreux, et avoir la patience d'attendre qu'ils reviennent. Car ils ne sont pas encore véritablement des souvenirs. C'est seulement lorsqu'ils seront mêlés à notre sang, lorsqu'ils seront présents dans nos regards, dans nos gestes, quand ils n'auront plus de nom, quand ils feront partie intégrante de nous-mêmes, c'est alors seulement que dans un moment exceptionnel, ils nous inspireront peut-être le premier mot d'un vers. Fin de citation, c'est Rainer Maria Rilke.
Oui, ça, on s'en serait douté.
On s'en serait douté. Mais je pense que ces souvenirs nous inspireront peut-être aussi la première note d'une mélodie.
Je voudrais dire une chose.
C'est l'émerveillement de jouer un son.
C'est que je pense que ça vaut en fait pour toute la littérature et pas seulement pour la poésie. Et qu'un des drames aujourd'hui de la littérature, c'est que ses consommateurs acceptent qu'elle ne soit pas ça.
Oh là là.
Qu'elle soit moins que cela, c'est-à-dire accepte qu'il n'y ait sur une page que ce qu'on y voit, que ce que l'imprimeur y a laissé avec des taches d'encre.
Oh,
la littérature, c'est un fait, ne se fait qu'entre les lignes, bien sûr.
Bien entendu.
Or, malheureusement, aujourd'hui, 9 livres sur 10 n'existent qu'à travers les lignes qu'ils nous donnent à lire. Et moyennant quoi, c'est de là, pour moi, véritablement sous-littérature et même non-littérature.
Je suis ravi, Alain, que vous évoquiez la littérature alors que nous parlons de l'histoire du piano. Mais bien entendu, parce que l'art des sons, c'est l'art des mots aussi. C'est l'art de savoir parler, c'est l'art d'avoir un discours qui veut dire quelque chose.
Je vais répondre à vos citations qui ont été nombreuses aujourd'hui par une autre citation que j'aime beaucoup, qui est de Borges, qui disait « Quels piètres écrivains serions nous, si on ne trouvait dans nos livres que ce que nous avions voulu y mettre. »
Oh, magnifique! Ça va conclure notre émission. Je vous propose encore un sol qui va nous perturber, mais cette fois, on va aller beaucoup plus loin. Comment voulez-vous ne pas terminer une histoire du piano sans évoquer... On l'appelait d'ailleurs Bill Evans, le Chopin du jazz. Alors finissons sur Chopin, voyons Alain, avec une ballade, la ballade numéro 1 en sol mineur, jouée par Guy Lels dans le grand hall du conservatoire de Moscou le 13 mars 65, et je vous le donne en mille, il se défonce tellement qu'il en met à côté. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Écoutez, c'est une merveille.
Chopin par Guy Lels, c'est bien sûr, je sais que la formule est facile, mais tout de même, Guy Lels par Chopin. Georges Pagzinski poursuivait sa descente dans les entrailles des pianos. Françoise Cordet assurait la réalisation de la séquence et Pierre Monteil la prise de son un soir, comme ça, dans la vie de France Culture. De leur part et de la mienne, excellente semaine. À dimanche prochain.